Interview.
1 mécanique extraordinaire qu'il y a. Voilà, on enlève ça. On voit le soufflet dont je vous ai parlé, oui. Qu'il y a des fuites en style d'accordéon. Là, pour l'instant, il est plein. Mais quand j'arrête le moteur, il descend. Il n'y a plus rien. Là, il est grand. Hein. C'est vraiment toute la largeur et la longueur de l'orgue. Et là, c'est toutes les vergettes qui donc, sont articulées, qui marchent au fur et à mesure qu'on joue avec les touches et les registres aussi. Donc c'est extrêmement... Attendez, je vais vous rester là et je joue.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 ou alors en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Monique Sirène. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes ici pour nous parler des Amis de l'Orgue et principalement aussi de l'orgue de la cathédrale de Die. D'ailleurs, que dit-on aujourd'hui, cathédrale ou église ?
On dit cathédrale, mais il n'y a plus d'évêque. Donc c'est devenu une église, mais on parle quand même de la cathédrale.
Et vous êtes ici pour nous parler de cet orgue qui est engagé, enfin, dans lequel vous vous êtes engagé avec les Amis de l'Orgue depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur sa restauration. On peut peut-être commencer l'émission par présenter l'orgue, par son histoire.
Très bien. L'orgue a été construit en 1845 par une maison d'Oblaine-Calinet qui était à Paris. Puis Joseph Merklin l'a emmené. Il a été conçu pour Marseille. Il est revenu à Die en 1888. Joseph Merklin l'a adapté à la cathédrale de Die. Il fit plusieurs travaux importants qui modifièrent et affinèrent le son, qui est celui que nous entendons encore aujourd'hui. Il y a eu quelques relevages, mais seulement quelques travaux d'entretien. Il est aujourd'hui dans un état précaire et on a besoin de sérieux travaux, de remise en condition. On se trouve devant un bel orgue avec des sonorités intéressantes et une belle partie de la mécanique et des sommiers est de bonne conception et de bonne facture. Ce diagnostic a été corroboré par Philippe Lefebvre, titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris et président d'Orgue en France lors de sa visite à Die en 2010.
Voilà, ça c'est une présentation d'une certaine aspect de l'orgue. L'orgue en lui-même donc, a été construit en quelle année, si on peut le rappeler ?
Oui, 1845.
Oui, et cette facture d'orgue correspondait à une série qui existait et qui était en vogue peut-être à l'époque.
Oui, Merklin est un très grand facteur qui a cherché comment adapter l'orgue à l'électricité. Il était un des premiers chercheurs à trouver cette solution. Il reste quand même un levier sur cet orgue. Quand il n'y avait pas d'électricité, on peut faire quand même marcher l'orgue.
Voilà, parce que l'électricité existait déjà hein, par des expériences scientifiques, mais son application n'était pas encore très étendue.
Oui, c'est cela même.
Et justement, comment s'opérait cet apport d'électricité pour la machinerie de cet orgue ?
Il s'agit d'un moteur à turbine qui envoie de l'air dans un grand soufflet, énorme soufflet qui rappelle avec des plis d'accordéon. Il y a aussi des canaux d'air qui sont envoyés en hauteur et qui arrivent sous les sommiers. Sur les sommiers sont fixés tous les tuyaux, verticalement. Des tuyaux de toute taille, d'après la hauteur du son. Et il y a une soupape qui est actionnée par une touche de clavier et par un registre de jeu, qui permet de faire sonner le tuyau en laissant passer l'air.
Ça, c'était l'utilisation de l'orgue, hein, tel qu'il était, mais je parlais de son apport d'électricité. Qu'est-ce qui était prévu? Vous n'avez pas de documents là-dessus, sur comment était produite l'électricité? C'était le moteur à pompe,
oui,
d'accord.
Oui, oui. Il y a le moteur qui est dedans, dans une caisse, à part de l'orgue.
Oui.
C'est un moteur à pompe qui envoie de l'air. L'air est pulsé, qui va dans le grand soufflet, la réserve d'air.
Cet orgue, vous l'avez en main depuis, en quelque sorte, hein, en tant que présidente des Amis de l'Orgue depuis 2008. Vous êtes engagée petit à petit à vouloir restaurer cet orgue, parce qu'à l'heure actuelle, qu'en est-il de ses capacités d'ailleurs?
Alors, écoutez, vu qu'il faut changer le moteur, qu'il faut changer la soufflerie, qu'il faut changer beaucoup de mécanique, de bras de mécanique qu'on appelle vergette, et des tuyaux un peu cabossés, le reste poussiéreux, et on va monter aussi d'autres tuyaux pour avoir des sons beaucoup plus graves. Alors, on a vraiment besoin d'une restauration complète, et il a seulement un tiers du son qu'il aurait quand il sera restauré. Un tiers du son seulement. Mais on l'utilise encore, bien sûr, mais peu à peu, il y a des notes qui s'arrêtent. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose. Encore récemment, une touche qui s'est arrêtée, un dysfonctionnement mécanique. Donc il est temps de le restaurer. Et on ferait appel à un monsieur, Michel Jurine, qui a vraiment passé son temps sur des thèses de Joseph Merklin, le facteur d'orgue, et qui a construit 4 orgues récemment français avec la facture de Merklin, qui sont partis en Corée du Sud. Donc, les orgues français sont aussi bons que le vin français pour les étrangers.
Il existe toujours donc cette manufacture, Merklin?
Ça a été repris. Oui, ça a été repris. Michel Jurine est le... comment dirais-je, le garant de ce genre de facture.
Donc c'est sous son œil de connaisseur qu'il peut approuver ou non une reproduction de ce type d'orgue.
Voilà, voilà, oui, restauré et fabriqué aussi.
Comme vous le dites, c'est fabriqué où alors actuellement?
Dans les ateliers de Jurine.
Près de Lyon. Et ce serait peut-être cette entreprise qui serait aussi habilitée à restaurer cet orgue?
Voilà, je souhaite vraiment. Mais donc, il faut faire des appels d'offres quand même, comme toute affaire financière. Mais maintenant, nous allons avoir des subventions de la mairie, du département, de l'État, de la région. Et la commune s'est beaucoup investie avec ceci. Les Diwa également, qui ont donné 14 000 euros, et je les remercie beaucoup, parce que l'orgue est vraiment important dans cette cathédrale. Il met de l'ambiance aussi, il crée une sorte de méditation quand on joue, ou bien les louanges, l'exaltation. Mais on peut, bien sûr, je suis organiste liturgique, mais... il y a beaucoup de concerts qui sont pas forcément liturgiques et qui sont sur des musiques profanes avec Mozart, Bach, Mendelssohn, enfin des grands compositeurs et même plus contemporains. Et même des improvisations. Il y a eu des improvisations par un grand organiste de Saint-Cloud qui vient régulièrement ici, Jean-Luc Guyard, et qui a improvisé. C'est tout un art, et c'est assez extraordinaire.
Donc, vous-même êtes musicienne et oui, interprétée de cet orgue. D'ailleurs, on parle d'organiste, hein, comme spécialité.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Et cet aspect de musicien, d'organiste, ça vous est arrivé assez tôt?
Mais oui, à 9 ans, je partais en vélo jouer sur l'orgue du village de ma grand-mère. Et je jouais du Bach, je jouais Mozart, je jouais Couperin. Et là, j'ai trouvé un orgue très intéressant, de sonorité vraiment. D'ailleurs, les tuyaux sont classés, certains tuyaux sont classés. Et je me suis intéressée, je me suis passionnée pour cet orgue. On peut jouer beaucoup de Couperin. Parce que c'est un orgue typique français avec des trompettes des clairons, des hautbois, un jeu de flûte harmonique savoureuse que Merklin avait installé, un jeu de montre, un jeu de prestant, un jeu de gambe, de bourdon avec des tuyaux en bois et aussi de voix célestes qui donnent une musique d'ambiance un peu méditative et très agréable. Et on peut faire jouer tous ces jeux ensemble avec divers arrangements.
Ça s'apprend longuement, la manipulation d'un orgue?
Ben oui, il faut d'abord pouvoir faire courir les doigts sur un clavier. Après, il faut jouer d'une certaine façon parce que c'est un instrument à vent et il faut avoir la patience d'écouter le son. Le son dure, c'est pas comme un piano, il dure longtemps, le temps qu'on laisse les doigts sur la touche, bien sûr. Il y a façon de faire sonner un orgue avec des accords puissants, mais d'après ce qu'on veut exprimer, évidemment. Des petits sons avec certains jeux, mais on peut faire quelque chose de très puissant qui correspond à l'acoustique de la cathédrale, qui est grande.
Cette manière de jouer est particulière. Est-ce que chez vous, vous la reproduisez aussi, justement, de manière à acquérir encore plus la subtilité du jeu?
Bien sûr, il y a aussi le pédalier. On travaille la coordination entre les deux mains et les pieds qui jouent en faisant marcher la cheville, talon, point de talon. Très intéressant, on peut faire une gamme avec les pieds. Et donc, c'est un entraînement, c'est vrai, journalier. Et surtout pour exprimer l'esthétique de ce qu'on a. On peut jouer des choses très profanes. Par exemple, il y a la chasse qui fait comme les cours de chasse avec les jeux de trompette et clairons. La chasse de Balbastre. Il y a le rappel des oiseaux de Rameau. Il y a un tas de choses qui sont dansantes aussi, du Frescobaldi, que je vais jouer le 18 et le 19 septembre, aux Journées du patrimoine.
On était sur le manière aussi, de cette capacité aussi d'interpréter oui. En utilisant tous ses membres et oui. de synchroniser aussi toutes leurs actions. Oui. Ça, c'est une école qui est très longue à acquérir aussi.
Mais oui, parce que on peut lier toutes les notes, ça s'appelle les liaisons, mais on peut les détacher. Et pour que, en fonction aussi de l'acoustique de la cathédrale, il faut pouvoir détacher les notes, détacher les doigts, lever les doigts le plus possible pour que ça donne un effet. Mais quand on veut jouer fort, on tient les sons pour qu'ils restent. Quand on veut jouer piano, c'est-à-dire doucement, on ne les tient pas. On fait du détaché, du staccato, on appelle ça.
Quel est le premier morceau d'orgue qui vous a donné envie d'en jouer?
Mais j'ai joué mes morceaux de Bach, qui étaient originellement pour le clavecin. J'en ai joué quelques-uns à l'orgue. Puis j'ai pris des partitions spécifiques pour orgue, toujours Bach, et c'est lui qui m'a mené. Je pense que Jean-Sébastien Bach est un très grand professeur et on peut faire une progression extraordinaire. Et là, je joue des toccatas très intéressantes de Bach.
Il y a plusieurs versions de toccatas chez Jean-Sébastien Bach?
Oui, il y a plusieurs toccatas dans tous les tons. La toccata en ré, bien sûr, est la plus connue. Et donc, il y a d'autres toccatas. Ça veut dire toucher, toccar. En italien, pour toucher. C'est en général pas très très long, sauf quand c'est suivi d'une fugue. C'est pour toucher le clavier avant de jouer un morceau conséquent, en fait, à l'origine. Ouais.
J'imagine que parfois vous vous retrouvez à d'autres endroits où se trouve un orgue et que vous vous y prêtez aussi à en jouer.
Oui, bien sûr. À Bourg-en-Bresse, où habite mon fils, il m'a invité à jouer d'un orgue. Donc, il y a des orgues beaucoup plus grands que celui d'Audi, évidemment. On pense à certains orgues de Versailles, de Paris, qui ont 5 claviers, 6 claviers. Nous, on n'a que 2 claviers. Celui de Bourg-en-Bresse, c'est 3 ou 4, je pense. Et bien sûr, certains orgues ont un ordinateur pour aider à assembler les jeux, parce qu'il y en a énormément. À Notre-Dame de Paris, il y a 8000 tuyaux. Donc, vous voyez, à raison de 50 notes par clavier, vous voyez tous les jeux différents qu'il peut y avoir. Et toutes les combinaisons intéressantes qu'on peut faire, avec l'acoustique du lieu, évidemment.
Voilà, la conception d'un orgue est très spécifique aussi à l'architecture dans laquelle il est installé.
Oui.
Par rapport au retour de sonorité, les échos, les réverbérations.
Voilà, c'est très important de savoir. Alors là, il est placé directement devant l'autel. Il est à un endroit maximum de sa sonorité, vu que les tuyaux de montre, ceux qui se montrent, sont juste en face de la porte d'entrée. Donc il est à son maximum de sonorité. Bon, on pense quand même le déplacer, mais le laisser un petit peu, 2-3 quarts, entre la chaire et le banc de communion, pour qu'on puisse être plus proche du public et dégager un petit peu l'autel. Il serait aussi plus maniable pour la liturgie, parce qu'on verrait l'autel un peu mieux. Et alors, on pourrait accompagner les chœurs, ça serait moins loin, et jouer des concertos de Handel avec un orchestre, ça serait vraiment formidable. Là, c'est un peu difficile en ce moment du fait de l'éloignement. Voilà.
Et donc, vous avez lancé une campagne de soutien participatif,
une souscription
pour restaurer cet orgue.
Oui.
C'était une campagne qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant.
Oui, 2010.
Et l'enjeu à l'époque était de réunir une certaine somme pour lancer cette restauration. Est-ce que vous êtes assez proche de ce chiffre ?
Eh bien, écoutez, on est au-delà de toute espérance depuis donc 10 ans. Bon de souscription, nous recevons des chèques régulièrement, encore, toujours. Et là, nous arrivons à une somme extraordinaire de 14 000 euros pour les Diois et ceux qui viennent en vacances. Il y a de Paris, il y a des gens de Marseille qui donnent un chèque pour la souscription. C'est assez extraordinaire.
Et puis vous avez le soutien aussi de collectivités.
De la mairie. Oui, de la mairie, vraiment formidable.
J'imagine qu'au départ, il y a 10 ans, vous aviez un chiffre d'estimation de cette restauration. Est-ce que ce chiffre est atteint de nos jours ou alors il faut encore...
Oui, il est atteint de nos jours. C'est 192 000 euros pour la restauration de cet orgue, avec l'ajout de nouveaux tuyaux et de nouveaux jeux beaucoup plus graves. Ça s'appelle un 16 pieds. On mesure les tuyaux en pieds.
Cette restauration commencerait à quelle période environ ?
Alors, donc, la mairie a réuni déjà toutes les subventions et vraiment, il n'y a plus que les appels d'offres à lancer. Et d'ici 3 mois, normalement, l'orgue devrait être parti dans un atelier.
Voilà, et sous le regard donc de ce monsieur que vous citiez au début de l'émission.
Espérons que ce sera avec Michel Jurine.
Là, à l'heure actuelle, l'orgue, vous en jouez, mais je veux dire, de par sa capacité actuelle, est-ce que vous êtes très limité au niveau des morceaux que vous pouvez interpréter ?
Ben oui, il y a la pédale du milieu, du do milieu, qui ne marche plus d'un seul coup. Alors là, on est un peu gêné. Bon, on peut quand même jouer certains morceaux. Bien sûr, les journées du patrimoine, on va ouvrir toutes les portes du buffet et je jouerai moi-même Frescobaldi, Bach et Couperin aussi. Et donc, on essaiera de quand même trouver des solutions pour pallier à ce problème de jeu qui ne marche plus trop bien.
Un morceau que vous souhaiteriez entendre dans cette émission pour clore celle-ci ?
Ben, j'aimerais mettre en valeur les jeux de hautbois et de flûte qui sont sur l'orgue et jouer un morceau de Couperin pour entendre les 3 différents niveaux, c'est-à-dire le récit, c'est-à-dire le petit clavier du haut qui sera joué avec le hautbois, la flûte qui est très savoureuse, qui est voluptueuse, qui sera jouée sur le grand orgue, c'est-à-dire le premier clavier, et puis la basse fondamentale avec le pédalier. Donc trois niveaux sonores.
Monique Sirène, oui. Nous allons nous quitter. Oui. Quels sont les moyens de vous joindre si vous souhaitez encore du soutien ?
Eh bien, il y a des bons de souscription qui sont à la sortie de la cathédrale sur des tables et un petit papier. Et sinon, vous pouvez me joindre au 06 75 61 25 01. Monique Sirène.
Mis à part les visites organisées pour les enfants, les écoliers, est-ce que vous en prévoyez par rendez-vous, je suppose, pour faire visiter l'orgue à un public ?
Ben oui, à commencer par les journées du patrimoine, mais ça peut se faire encore. En général, les jours de marché, les gens sont près de la cathédrale et je viens jouer vers 11h, mercredi et samedi. Et si les gens sont intéressés, je peux enlever les portes du buffet.
Donc nous sommes dans la cathédrale de Die et Madame Sirène va nous jouer quelques extraits, donc à commencer par deux de Couperin. On peut peut-être présenter ces morceaux séparément et quelles sont leurs particularités.
Alors là, donc c'est une musique de Couperin. Il y a donc le bourdon et la flûte qui vont jouer sur une base de pédale. Et à un moment, le hautbois va jouer. Ça s'appelle Récit de cornet parce que le hautbois est sur le deuxième clavier. Ça s'appelle le clavier de récit. Et le cornet s'apparente un peu au hautbois. C'est un peu la même famille. Ici, on n'a pas de cornet, mais on a un hautbois très joli. Donc, premier morceau avec hautbois. D'abord, flûte et bourdon, et puis hautbois. Le deuxième morceau sera aussi de Couperin. Dialogue sur les trompettes et clairons, et ça sera très dynamique, toujours de Couperin. Le troisième morceau sera une toccata de Bach en sol, pas en ré mais en sol, et pour montrer encore les différents jeux de montre et de prestant qui donnent un tutti flamboyant. Et ensuite, pour terminer, oui, Pachelbel, c'est une passacaille. Une passacaille du Pachelbel qui va vous faire entendre, ah, ça sera tout le contraire, ça sera des jeux d'ambiance, gambe et voix céleste.
J'ai rajouté un dernier morceau. Là, j'ai mis tous les jeux, tous les jeux ensemble. Et donc, là, certains endroits où il y avait tout ça, la gangue, le CRCS, voilà.
Interview.
Okay, the bear.